Très rapidement, donc ce que je pourrais vous dire, c'est que l'on peut remarquer une personnalité abandonnique, notamment en suite de couche, c'est-à-dire dans les dépressions postpartum, ensuite d'interruption de grossesse, donc volontaire, involontaire ou médicale. Vous avez la kleptomanie aussi, dans les deuils aussi difficiles à réaliser. Et pour illustrer cela, j'ai choisi donc de prendre un exemple lié à une catastrophe naturelle qui a eu lieu donc dans mon département d'adoption, le Vaucluse, et en particulier à Vaison-la-Romaine. Je pense que tout le monde se souvient donc de la catastrophe de Vaison-la-Romaine qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, lorsque cette énorme vague de boue donc s'était abattue sur la ville, sur les habitants, sur les habitations. On va prendre pour exemple deux voisins qui auraient travaillé dans la même entreprise, qui auraient été mariés, qui auraient eu deux, trois, quatre enfants, peu importe chacun, même maison, même lotissement, même superficie, etc. La catastrophe intervient, on va assister à un des voisins qui, une fois le choc passé, va dire, bon, on va pas se laisser abattre, c'est vrai, c'est un drame, mais il va falloir reconstruire. Et on va voir l'inconscient de cet homme qui va aller de l'avant, et très curieusement, non pas pour privilégier des positions masochiques, mais on va voir donc cet homme qui va peut-être même en profiter pour opérer un changement, qui va attirer un emploi différent, où effectivement, il pourra peut-être enfin se réaliser. Donc il est bien évident, vous l'avez compris, là, on ne va pas parler de profil abandonnique. À l'inverse, par contre, on va avoir l'autre voisin qui va commencer à sombrer, donc à régresser, à être dépressif, et qui pourra même aller jusqu'à régresser à un stade très primaire, un stade hallucinatoire, et développer par exemple un problème d'alcoolomanie. Pourquoi? Parce qu'il est bien évident que cet homme donc aura eu une fixation abandonnique, et la catastrophe de Vaison-la-Romaine ramenant à la perte aura réveillé un affect infranchissable qui aura amené une régression. Alors, on n'est jamais à l'abri de rien, et c'est pour ça que en analyse, on n'aime pas beaucoup les jugements, parce que malheureusement, ces choses-là peuvent intervenir à n'importe quel moment de notre existence, pour la bonne raison que les choses qui nous ont fait mal sont, dit-on, refoulées, donc bien sûr au niveau inconscient. Alors, certes, nous sommes donc bien sûr plus ou moins abandonnés, cela a été dit aussi tout à l'heure, mais il y a quand même des lignées qui sont, je vais essayer de ne pas me casser la figure et pas m'abandonner moi-même, au niveau de mon identité du moins, il y a des lignées qui sont quand même plus marquées que d'autres. Et très souvent, ce qu'on remarque chez un sujet abandonnique, ce sont les non-dits. Ce sont effectivement, on n'appelait pas ça comme ça autrefois, c'était plus négatif, mais des mères célibataires, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas été reconnus, bien sûr des décès prématurés de mères notamment. Alors ça m'a amené à m'interroger sur le fameux père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je l'ai transformé justement compte tenu d'un contexte actuellement qui peut paraître un petit peu inquiétant. Je fais allusion là rapidement au matronyme. Je l'ai transformé en père, pourquoi m'a-t-elle abandonné? D'autant que c'est une question très souvent qui m'a été posée, soit par des patients, soit par des élèves, à savoir, est-il plus douloureux pour un inconscient qu'une mère disparaisse prématurément ou qu'un père disparaisse prématurément, quelles qu'en soient les raisons. Là, ce peut être aussi une mère ou un père qui partent pour des raisons affectives ou qui se suicident. Eh bien, et là, je ne veux pas du tout, bien au contraire, banaliser la position du père, bien sûr, dans la triangulation, puisqu'encore une fois, le père est le représentant de la loi, donc il pose les limites, et vous savez qu'on entend par limite en analyse notamment le respect du tabou de l'inceste, mais pour un inconscient donc, qui reste très immature et qui est particulièrement immature, donc chez le tout petit homme, un père qui s'en va, non pas que l'inconscient l'accepte, parce que c'est inacceptable pour l'enfant, il a donc deux jambes, mais cela va être mieux toléré puisque le père est perçu comme venant du dedans mais allant au dehors. Par contre, une mère qui est perçue selon un processus très intériorisé, très intériorisant, très nidifiant, il est bien évident que si elle part prématurément, quelles qu'en soient les raisons, l'inconscient de l'enfant va de toute façon en être fragilisé à vie, avec des conséquences, bien sûr, plus ou moins graves, selon, encore une fois, l'héritage transgénérationnel, la façon dont cet héritage transgénérationnel aura véhiculé aussi l'abandonnisme, et selon aussi ses propres limites, parce qu'il faut quand même rappeler que nous sommes uniques aussi. Alors, qu'a le père dans ces cas-là? Je reviens sur la notion de jugement. Qu'a-t-il à sa disposition vis-à-vis de l'enfant qui, bien sûr, va soit l'interroger, si le père est relativement ouvert quant au départ de la mère, quant au suicide de la mère, quant à la mort de la mère, soit effectivement au travers de comportements somatiques notamment, ou à type de névrose d'échec, eh bien il faut ne jamais critiquer la mère dans ces cas-là. Tout simplement, déjà en première intention, parce que l'enfant, lui aussi, a une jambe maternelle, il s'est identifié à la mère, et que de toute façon, si on arrive à lui expliquer qu'elle aussi est issue, or les histoires se savent dans les familles, est issue donc d'une famille abandonnique avec des exemples très précis, eh bien l'enfant va commencer à s'interroger puisque c'est son histoire quelque part qui lui est racontée et il ne jugera pas, il ne cherchera pas à détruire justement, je refais un clin d'œil à ce que je disais tout à l'heure, donc il ne culpabilisera pas à outrance. Et avec un support thérapeutique ou pas, de toute façon, il commencera à apprendre à analyser la vie. Donc là, je suis allée très vite parce que, encore une fois, on a très peu de temps, mais il est bien évident qu'il faut rompre le silence. Alors, je vais vraiment utiliser le thème d'aujourd'hui pour dire que la profession psychanalyste se vit très abandonnée et souvent a l'impression de subir, c'est peut-être du fantasme, pourquoi pas, une espèce de maltraitance institutionnelle, parce que notre métier est dénié, n'est pas reconnu, plus de 100 ans après, souvent ridiculisé, notamment médiatiquement parlant, et plutôt que de là aussi démarrer un débat qui ne présente aucun intérêt, j'ai choisi justement de vous présenter la méthode selon deux exemples un petit peu différents. Un exemple d'abord personnel, où peut-être tout le monde pourra se retrouver. J'espère qu'il sera suffisamment pratique. Et puis un exemple professionnel. Alors, en ce qui concerne l'exemple personnel de la vie quotidienne, on pourrait imaginer des enfants en train de participer à un jeu de société. Les parents sont présents, où les parents sont présents, soit que l'enfant d'ailleurs ait sollicité le parent pour entrer dans le jeu, ce qui peut toujours être le cas, et qui est souvent le cas, soit effectivement que les parents soient là pour des raisons de sécurité et de surveillance. Alors très rapidement, dans un jeu, et malheureusement c'est peut-être le jeu de la vie aussi, on va assister à la présence de deux profils abandonniques, ça a été dit tout à l'heure aussi. Il y a toujours un bourreau et une victime, un bourreau qui cache une victime, et une victime qui de toute façon cache un bourreau. Alors le plus abandonnique des deux partenaires de jeu va s'agiter dans tous les sens, va essayer de monopoliser bien sûr l'espace, la parole, va se faire entendre. Alors on va dire qu'il a un complexe de supériorité qui cache un complexe d'infériorité. Et puis, il va y avoir en face de lui un petit garçon qu'on pourrait prénommer Rémi, qui est plus en retrait. Le jeu commence. Bien sûr, il y a la règle du jeu qui doit rester constante tout au long de la partie et qui doit être la même pour tous les partenaires, parce que sinon, très rapidement, on assisterait à des dérives et à ce qu'on pourrait appeler, et qui serait perçu ainsi par l'inconscient, comme de l'injustice. Alors, cela nous renvoie bien sûr à la règle fondamentale en analyse, à savoir deux choses très rapidement, bien sûr, la règle des actes manqués, c'est-à-dire tout rendez-vous pris en analyse est dû. Il s'agit là d'engagement, il s'agit de limites, il s'agit d'un contrat, il s'agit de loi. Et puis aussi, bien sûr, je suis en train de perdre ce que j'étais en train de raconter, oui, donc ce que Freud appelait donc l'influence. J'essaie de gagner du temps parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, donc je vais très vite. L'influence correctrice du paiement, bien sûr. Hein. C'est ce qui va nous permettre déjà, en tant qu'analyste, d'obtenir des sécurités. Elles ne seront pas suffisantes, bien sûr. Après, c'est la méthode qui va faire le reste. Donc, on va imaginer que le petit agité de service perde. Alors il va commencer à hurler et puis il va essayer de faire changer la règle du jeu et puis de la tourner à son avantage. Alors il est bien évident que le parent va s'y opposer formellement et va dire non. Alors il va s'énerver de plus en plus, il va chercher à détruire le rival, a fortiori si Rémi gagne. Alors on peut l'entendre dire « ouais, tu vas voir toi Rémi, ta voiture jaune, là je vais te l'exploser ». Alors le parent doit intervenir à ce moment-là dès qu'il le peut en disant à l'enfant « tu vois, d'accord Rémi, là il est en train de gagner, mais tant que la partie n'est pas terminée, on ne sait pas qui sera le vainqueur parce qu'il peut tomber sur cette case redoutable qui va lui faire passer deux tours ». Donc à ce moment-là, Rémi ne va plus être perçu comme un rival. Donc, si on se réinterroge sur le fantasme de projection contrôle, l'inconscient donc, ne va plus chercher à détruire le partenaire, puisqu'il n'est donc plus rival, il ne va donc plus culpabiliser, il va récupérer de l'énergie, de la libido. On va dire que donc la mère aura permis un processus d'humanisation, vous avez vu qu'on avait vu la loi, l'humanisation, et l'enfant va pouvoir de fait se socialiser, c'est-à-dire que toute cette énergie récupérée, il va la mettre à son service et il va avoir peut-être des tactiques de jeu meilleures. Et même s'il venait à perdre, eh bien, c'est d'ailleurs souvent ce que l'on voit lorsqu'on entend notamment des chasseurs ou des pêcheurs discuter, eh bien, si l'axe, donc, loi, humanisation, socialisation a été respecté, c'est pratique. Il est bien évident qu'il va y avoir une renarcissisation donc, de l'inconscient de l'enfant. Et lorsqu'il racontera la partie de jeu, encore une fois, même s'il perd, eh bien, on verra, il sera tout fier malgré tout, même si ces stratégies n'ont pas abouti, de les raconter. On va voir aussi donc comment peut opérer donc la triangulation loi, humanisation, socialisation en séance de régulation. Mais vous allez me dire, mais on fait tous ça. La loi, bon après tout, on est des gens honnêtes, on sait la poser. Et puis humaniser, on sait, socialiser, on sait. La plupart du temps, bien sûr, la triangulation, on la maîtrise parce que nous avons eu des parents dits surmoïco-castrateurs qui nous ont rappelé à l'ordre. Si les parents ont été déficients à ce niveau-là, il y a eu un enseignant ou il y a eu un curé ou des fois c'est un cousin, ou etc. Mais la problématique que nous avons, et je l'illustrerai rapidement, c'est que la loi, nous la posons, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, nous inversons l'ordre, c'est-à-dire que nous socialisons avant d'humaniser. Alors, je vais prendre un exemple un peu caricatural. On va imaginer un adolescent, donc il a tout à fait compris qu'il avait plutôt intérêt à faire des études correctes compte tenu du contexte actuel, etc. Même qu'il ait tout à fait intérêt à passer son bac et à l'avoir. Et donc, les choix vont commencer à se poser. Les parents vont avoir des tas de discussions avec l'ado. Eh bien, le désir de l'enfant ne doit pas être pris en compte. C'est-à-dire que l'ado va leur dire au départ, oui, c'est vrai, il faut que j'ai mon bac, je vais travailler, etc. Mais très vite, les parents vont proposer des axes de socialisation à l'enfant. Ah, tu sais, le métier de vétérinaire, c'est génial, hein, ou le métier de médecin ou d'avocat, c'est extraordinaire. Et là, bien sûr, vous l'avez compris, il va y avoir évidemment un complexe d'infériorité qui va s'agiter dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que le désir de l'enfant n'est absolument pas pris en compte. Ou alors il va arriver trop a posteriori, et on voit encore là, effectivement, soit un ado qui fonctionnera par peur de perdre l'amour de ses parents, par abandonnisme, donc qui fonctionnera selon un faux self, cas auquel effectivement il sera peut-être avocat pour faire comme papa ou pour séduire maman, donc là par Oedipe interposé. Mais on pourra très bien avoir un avocat de ce type-là qui soit un mauvais avocat, ce qui est d'ailleurs rarement le cas, parce qu'il faut continuer à séduire les parents, soit qui aura un accident de voiture, on me rappelle quelque chose, tiens, et qui se tuera par exemple en allant travailler. Effectivement, soit on pourra assister lorsqu'il s'agit déjà d'une conduite vrai self d'un ado, donc qui fuguera, qui partira en claquant la porte, c'est d'ailleurs pas le pire, mais de toute façon vous voyez qu'il y aura une rupture qui interviendra de toute façon, donc dès l'instant où on ne respecte pas cette triangulation-là, dans ce sens-là, c'est-à-dire dans cet ordre-là, eh bien, on ne respecte pas le désir de l'inconscient, c'est-à-dire on ne respecte pas l'inné. Or, il faut savoir que l'inné est aussi le réservoir des pulsions de vie, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va dire que les parents vont chercher à symboliser, c'est-à-dire à faire rentrer l'enfant dans le moule, mais c'est sans compter sur le fait que nous sommes tous différents. Donc, ce qu'on dit toujours en analyse, c'est qu'il vaut mieux un jardinier heureux, bien sûr, hein, que quelqu'un qui fasse des hautes études commerciales et qui soit malheureux, qui galère toute sa vie. Mais ça, je pense que vous le savez. Alors, en régulation, bon, on va avoir exactement la même problématique. Alors, on va imaginer que nous soyons appelés en entreprise, donc pour une gestion de conflit, parce qu'il faut savoir qu'on est appelé, si on est régulateur, que pour ça, jamais pour le reste. Et en général, quand on est appelé, eh bien, il y a bien sûr des nœuds borroméens, comme le disait Lacan, qui sont devenus très résistants. Alors, pour trouver les bonnes pistes, c'est pas évident, et vous allez voir pourquoi. Alors, il est très facile à un régulateur, je sais qu'il y en a là aujourd'hui, il est très facile à un régulateur donc de poser la loi. Je vais donner un exemple, il peut y en avoir des tas, c'est-à-dire qu'il lui suffit tout simplement de rappeler donc les termes d'un contrat initial. Et puis là, c'est pareil, on va toujours voir un dominant et un dominé. Donc, ne jamais oublier que de toute façon, dans le rapport dominant-dominé, il n'y a jamais que du complexe à la base, hein, et du complexe d'infériorité, même si la forme semble différente. Et donc, on va voir le dominant qui va s'évertuer à agresser, bien sûr, Dupont, qui sera le dominé là, pour les besoins de la cause.